3-4 morts là, comme à Saint-Frédéric-de-Beauce là, à cause des pneus. Puis là, les gens, le coroner va dire que c'est à cause des pneus.
Puis là, les policiers vont sortir.
Là, ils vont peut-être bouger. C'est ridicule. Là, on n'est pas en Floride. Ouais. On est au Québec. Il y a de la neige ici. Moi, j'ai déjà pogné de la neige dans le parc des Laurentides au mois de juin, puis à fin août dans le parc des Laurentides.
Mm-hmm.
Ça dépend où tu voyages, mais c'est pas écrit. Tu as le droit d'avoir tes pneus d'été juste à Montréal ou à Sherbrooke ou dans le sud du Québec.
Mais
à Québec, ici, il y a de la neige. Là. Aisément, jusqu'au début mai, tu peux pogner une bonne tempête. Là.
Ouais. Mais vous avez été ministre de la Justice pendant un certain temps, puis vous vouliez l'enlever, ce fameux no fault-là, c'est ça?
Bien, je voulais pas l'enlever complètement. Je voulais que ça s'applique pas dans les cas d'actes criminels.
Okay.
Il y a 600 cas par année. En tout cas, à l'époque, c'était ça, en 2003, là, quand j'étais là. Il y a 600 cas par année d'actes criminels au volant qui causent des blessures ou la mort d'autrui. Ça, c'est... Il y a 6 ou 7 infractions dans le code criminel pour la conduite automobile. Ça peut être une tentative de meurtre, ça peut être la négligence criminelle, la conduite dangereuse, l'alcool au volant causant la mort, des lésions, il y en avait 6. Mon projet, c'était que si tu es sous au volant puis que tu tues quelqu'un, la loi sur l'assurance automobile ne s'applique pas. Ça veut dire que toi, tu n'es pas indemnisé pour les dommages que tu t'es toi-même infligé en état d'ébriété. C'est la première des choses. Tu as droit au BS, tu as droit à ton assurance privée si tu en as une, mais tu n'auras pas droit aux largesses de la loi de la SAC, remplacement de revenus puis tout ça. Et si tu as causé des morts ou des victimes ou des blessés, bien là, eux peuvent te poursuivre en responsabilité. Ça veut dire que ce serait le régime de base, responsabilité civile en cas d'acte criminel.
OK. Puis... Est-ce que ça changerait beaucoup de choses? Est-ce que, je sais pas, moi, des gens décideraient de faire faillite pour pas se faire poursuivre? Parce que là, les familles, on enlève le no-fault, les familles pourraient poursuivre les individus?
Exactement. Ils pourraient poursuivre les individus dans un cas d'acte criminel.
Ouais.
Mais c'est sûr que, tu sais, ça, la question de la faillite ou de se soustraire à ses obligations aux civils, ça s'applique à n'importe quelle personne.
Mais tout le monde peut faire faillite.
Quelqu'un, je sais pas, moi, tu t'en vas manger chez un de tes chums, puis le poêle à gaz te pète dans la face avec les hot dogs puis les burgers, t'es blessé, il peut être poursuivi parce qu'il a été négligent.
Ouais.
Mais s'il fait faillite, tu vas avoir un recours pareil, mais tu ne pourras pas l'exécuter parce qu'il va s'être appauvri illégalement. Là, tu peux peut-être faire annuler un certain nombre de transactions, mais ça s'applique à tout le monde. Mais la question du no-fault, moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'une personne qui commet un acte criminel au volant puisse être indemnisée par l'État. C'est assez ridicule. Puis ces gens-là, les criminels vont chercher une portion substantielle du budget de la SAC. Puis après ça, il n'en reste plus pour les vraies victimes qui ont de la misère à se faire payer des frais de chiro ou des frais de docteur.
Okay. Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à vous poser cette question-là parce que je vous l'aurais peut-être posé hors d'onde là, pour être sûr et certain qu'on puisse avoir une réponse complète. Mais est-ce qu'un individu qui frappe un autre individu puis il était sous l'effet de l'alcool, beaucoup trop sous, et là, il va faire peut-être de la prison. On espère qu'il fasse de la prison pour qu'il recommence plus jamais, pour qu'il paye sa dette à la société. Est-ce que cet individu-là, pendant qu'il est en prison, reçoit des chèques de la SAC?
Oui.
Advenant le cas, il était blessé?
Oui, il reçoit des chèques de la SAC en autant qu'il est incapable de faire sa job. Ça veut dire, accusé d'alcool au volant, mais dans l'accident que tu as causé, tu t'es blessé au dos. Puis t'es cimentier applicateur, t'es plus capable de poser des plaques et des briques. Alors, tu t'en vas en prison. Tant et aussi longtemps que tu peux prouver que t'es pas capable d'être cimentier applicateur, t'as droit à ton remplacement de revenu.
OK.
Alors, t'es en prison, puis t'as droit à ton remplacement de revenu, même si tu t'es disqualifié par ton acte criminel du marché du travail, parce que étant en prison, évidemment, tu peux plus de toute façon être cimentier applicateur à moins de le faire en prison. Alors, tu sais, c'est complètement ridicule. Et la CNSST fait la même affaire, là. T'es sur la CNSST, mais tu peux prouver que ton poignet que tu t'es fracturé une semaine avant de rentrer en prison t'empêche de faire ta job. Alors, t'es en prison, mais tu peux prouver par des rapports médicaux que ton poignet n'est pas consolidé, que t'es encore traité, t'es encore en physio. Donc, la CNSST va t'envoyer quand même ton indemnité de remplacement de revenus pendant tout le temps que t'es en traitement. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui, qui reçoivent des indemnités de la CNSST et de la SAC, des rentes aussi, des rentes d'invalidité. L'aide sociale ne paye pas pendant que tu es en prison, le chômage non plus. Il y a dans la loi, c'est prévu parce que tu n'es pas disponible au travail, tu n'es pas disponible pour gagner ta vie. Mais la CNESST, la SAC, il n'y a rien dans la loi qui dit « Pendant que tu es en prison, tu n'as plus droit à ton indemnité de remplacement de revenus. » Alors, c'est quelque chose, là. Mais j'ai présenté ça en commission parlementaire en 2002. À l'époque, c'était le gouvernement de Bernard Landry qui était au pouvoir. Je n'étais pas encore député. Et j'avais présenté ça en commission parlementaire et j'avais dit « Arrêtez de payer des rentes à des prisonniers. Ils sont de toute façon logés, nourris, blanchis par l'État. »
Soignés.
Puis beaucoup mieux soignés la plupart du temps, en tout cas au plan mental, c'est clair, en prison qu'à l'extérieur. Arrêtez de payer, prenez ces sommes-là, puis affectez-les à d'autres choses. Ouais. À d'autres fins.
Ah, peut-être les donner aux victimes, ces gens-là.
Ah oui, c'est vrai qu'ils sont payés. Oh, oui, ils sont payés en prison. Moi, j'en vois des gens, puis des fois, c'est des gens que j'ai défendus. À un moment donné, pour une raison ou pour une autre, j'apprends que le bonhomme est en prison parce que, je sais pas, violence conjugale, alcool au volant, fraude, n'importe quoi. Moi, je l'ai défendu comme menuisier. Il est en prison, puis il est indemnisé. Tu sais, une fois qu'il a commis son acte criminel, je ne sais pas ce qu'il est rendu, moi, là.
Mais avec du recul... Pourquoi on n'était pas d'accord avec ce que vous voulez mettre en place à ce moment-là, avec du recul? Là?
Avec du recul, bien, les arguments, c'était notamment pour garder l'assurance automobile à tout le monde, même pour les criminels. On disait, par exemple, bien, ils payent des primes comme les autres, ces gens-là. Ils payent des primes à sac. Donc, ouais. Ils ont le droit d'avoir des bénéfices s'ils se blessent. Ça, c'était un des arguments. L'autre argument, c'était bien, ils ont des enfants, donc si vous arrêtez de les payer, ils pourront pas subvenir aux besoins de leurs enfants, des choses comme ça. Mais tu sais que les assureurs privés, ils payent pas pour les conséquences d'un acte criminel.
Exact.
Alors, le gars là qui commet un acte criminel, je sais pas, il met le feu à sa maison, il ne sera pas indemnisé pour la maison qui a brûlé, il n'y aura pas une scène. Alors, les enfants vont souffrir de ça, mais c'est peut-être le prix à payer quand tu commets un acte criminel, c'est que tes enfants te regardent dans les yeux et disent « Papa, tu nous as appauvris, puis à cause de toi, j'aurai pas mon camp de vacances, j'aurai pas mon voyage, j'irai pas dans la même école l'année prochaine. » C'est les conséquences d'un acte criminel. Mais en enlevant toute forme de conséquences, en donnant des chèques d'indemnisation à des gens qui se sont blessés eux-mêmes en état d'ébriété, c'est quand même pas de notre faute, là. On banalise le crime, puis on supplée à la perte par l'État qui continue de payer. Puis c'est comme s'il n'y avait pas vraiment eu d'acte criminel. Il y en a eu un, mais financièrement, ça ne paraît pas trop. Il y a même une avocate criminaliste qui défend les cas d'alcool au volant qui m'a dit, il y a à peu près 20 ans, Marc a dit, les criminels de la route, là, c'est nos meilleurs clients parce qu'eux autres, ils ont de l'argent. Parce que IVAC ne paye pas pour des gens qui commettent un acte criminel.
Non.
La CNESST, il y a une clause qui permet à CSST de ne pas payer quand tu as commis un acte grossièrement volontaire, donc un acte criminel notamment. Mais la SAC, elle, paye en tout temps. Puis il y a un régime public qui ressemble au no-fault québécois qui est en vigueur au Manitoba depuis 1994. Puis eux autres, par exemple, si tu te blesses sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, ils ne payent pas ta première année de remplacement de revenus. La première année, tu n'as pas une scène de la SAAC du Manitoba.
Mm-hmm.
C'est au moins ça.
C'est
un signal. Ouais. Ça veut dire, si tu prends un coup et tu te blesses, pendant la première année, tu n'auras pas d'argent. Mais si ton incapacité dure plus qu'un an, bien là, ça veut dire que tu es vraiment handicapé. On va te prendre en charge après un an, mais tu vas réfléchir pendant un an, puis ça va être le BS ou ça va être d'autres choses, mais ça ne sera pas la SAAC. Mais ici, au Québec, on n'a aucun signal économique pour faire comprendre au gars qui s'est blessé pacté que non, il n'y aura pas les indemnités. Fait que quand tu vois dans le journal un gars qui comparaît de son lit d'hôpital là, pour avoir tué quelqu'un ben sous, là, lui, il est blessé, ce gars-là, il est sur la sac.
Ouais, il est indemnisé.
Dis-toi bien ça, tout le monde.
Incroyable. Puis cette discussion-là est partie du fait que, on a eu une tempête de neige, alors qu'aujourd'hui, si vous roulez avec des pneus d'été, c'est tout à fait légal. Puis on se demandait si on pouvait pas repousser ça un peu, tu sais, mettre ça peut-être au 1er avril.
Ben, moi, je pense que ça devrait être peut-être le 15 avril. Ça dépend. Écoute, moi, personnellement, j'enlève les pneus d'hiver. Normalement, parce que je voyage souvent dans le Nord, puis au Saguenay, puis en Gaspésie, dans le bas du fleuve, à Rimouski, disons qu'au 1er mai, si tu as tes pneus d'été, tu prends un risque. Parce qu'il peut tomber de la neige, il peut tomber de la gadoue.
Il faudrait que ça soit par secteur, parce que Gatineau, il n'y a pas grand neige.
Ça se peut, mais en même temps, le gars de Gatineau, il peut se promener, puis il peut aller ailleurs aussi. Tu sais.
Ouais.
t'es un voyageur, il peut se promener. Alors, c'est pas parce que tu restes à Gatineau que tu restes à Gatineau tout le temps. Tu peux aller une fin de semaine à quelque part. Tu sais, ton fils est allé au hockey en fin de semaine, mais là, il s'est déplacé. Tu sais, puis il se promène ça à 20, puis il fait pas beau. Moi, je pense que avant le 15 avril, peut-être même le 1er mai, on devrait l'imposer. Pourquoi on ne l'impose pas? Pourquoi on change? Pourquoi on met ça au 15 mars? J'ai jamais compris la règle pour des fonctionnaires qui sont à Québec puis qui vivent à Québec. Je comprends pas comment on peut parler du 15 mars. C'est quoi? C'est qu'on use les pneus trop, ça coûte cher. C'est quoi l'argument qui fait que on permet les pneus d'été le 15 mars?
Parce que les anciens vont vous dire que les saisons se déplacent un peu, là, puis ils ont entièrement raison. Là. On dirait que l'été dure plus longtemps qu'avant. Ouais. L'automne, tu sais, est poussé un peu aussi.
C'est le 15 décembre, je pense, les pneus d'hiver?
C'était, je pense que c'est rendu le 1er décembre.
1er décembre, ouais. 1er décembre, écoute, c'est parce que le problème, c'est que tu peux avoir des gens qui vont enlever leurs pneus d'hiver puis qui vont constituer un danger public. Ils peuvent glisser, ils peuvent rester pris d'un pente, d'un côte, puis peuvent causer des accidents surtout. Moi, tant que les gens ne se blessent pas, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Celui qui prend le clos puis qui s'en va briser sa porte de char, puis c'est son problème. Mais le problème, c'est que tu t'en vas sur le chemin puis tu ne sais jamais de l'autre bord. Le coco, lui-là, là, qu'est-ce qu'il a comme chaussure dans son bazou?
C'est drôle, sur le site du gouvernement du Québec, là, votre véhicule doit être chaussé pour l'hiver du 1er décembre au 15 mars. Toutefois, les conditions printanières pouvant être variables, il vous est recommandé d'attendre quelques semaines après la fin de cette période avant de poser vos pneus 4 saisons ou encore vos pneus d'été.
C'est niaiseux.
Sur le site du gouvernement du Québec, mais comme vous avez dit tout à l'heure, ça va prendre une tragédie, un violent face-à-face qui malheureusement pourrait peut-être impliquer une famille de politiciens. Et là, on va être tout autour de la table, on solidaire, mes amis. Puis là, faut modifier la loi pour ce qui est des pneus d'hiver.
Là, l'opposition va se lever en bloc puis dire ça, mais il y a déjà des accidents comme ça. Je suis convaincu. Mais dans quelle mesure on va vérifier les pneus d'été, les pneus d'hiver? Parce que souvent, dans les rapports, on va marquer qu'il y a un pneu sur la fesse, par exemple.
Ouais.
Mais tu sais, avant de prendre des accusations pour négligence criminelle contre quelqu'un qui a des pneus trop usés, c'est assez délicat parce que c'est pas parce que tu as des pneus usés que ça peut pas rouler. Tu as des pneus usés qui vont être moins adhérents. Mais là, on n'est pas des ingénieurs. Puis c'est sûr que si le 16 mars, tu as des pneus d'été, puis qu'il y a une tempête, puis que tu causes un accident, tu vas avoir une bonne défense au juge pour dire, écoutez, j'ai respecté la loi. Si tu n'as pas fait de fausses manœuvres, c'est un véhicule qui est en bon état, en général, puis que tu n'as pas fait de fausses manœuvres, mais que tu as un accident, ça ne veut pas dire que tu vas être acquitté nécessairement, mais avant de prendre des accusations, la couronne va réfléchir longtemps.
Pour jaser avec un garagiste qui sait tout, c'est le meilleur garagiste au monde, il me dit, c'est 10 jours à plus de 7 degrés, après ça, tu peux mettre tes pneus d'été. Donc, 10 jours à plus de 7 degrés. Après ça, tu peux mettre tes pneus d'été.
OK. Mais ça, c'est pas dans la loi, mais c'est un expert garagiste qui nous le dit.
C'est ça. Parce que si,
mettons... Mais ça veut dire quoi comme date, ça? C'est 10 jours après,
okay? S'il fait 10, là, tu dis, ça, c'est un jour. Mais si le lendemain, il fait 0, ça n'existe plus.
Comme cette semaine, tu devrais pas normalement, parce que je pense qu'il y a 2 jours qui annoncent en bas de 0.
Lui, ce qu'il me dit, c'est 10 jours consécutifs à plus de 7 degrés, t'es correct.
À plus de 7 degrés.
C'est ça.
Bien là, ça rejoint pas mal ce que je disais. Ouais. On est rendu au mois de mai pas mal. On est rendu au début mai, d'après moi.
Exact, exact. Ouais. Hey, comment ça a été votre fameux Hitchcock retour 70 ans plus tard, Hitchcock à Québec?
C'était le fun, c'était parfait. T'sais, René Hudon était extraordinaire.
Ouais.
On avait un expert en cinéma qui nous a parlé de la censure. La salle était pleine, il y avait 250 personnes dans la salle numéro 8. Il y avait beaucoup de cheveux gris aussi, c'est sûr, parce que, écoute, les Hitchcock, on parle du film qui a été tourné en 52. Mais tellement d'anecdotes, les gens m'arrêtaient, j'ai de la misère à sortir de la salle.
J'étais une rockstar. J'avais des témoins qui étaient là qui m'ont raconté ça. Ben oui,
il y a
ben
des
oui.
gens qui m'ont parlé de toi d'ailleurs. Ben ils m'ont dit, oh, j'ai entendu ça à l'émission de Marceau. Mais tu sais, il y avait des gens plus jeunes, évidemment, mais les gens là, de, je dirais, des 50-60 ans me racontaient ce que leur père ou leur oncle avait dit. Il y en a une dont l'oncle était dans le jury, parce qu'il y a un jury, à un moment donné, qui juge le prêtre qui est accusé de meurtre. Puis c'est tous des hommes, parce qu'à l'époque, en 52, les femmes ne pouvaient pas être jurées, OK? Alors, c'est tous des hommes. Puis la fille me disait, j'ai vu mon oncle, qui était le dernier au fond à gauche. Puis je disais, c'est celui qui avait une drôle de posture, il était un peu de travers, il était un peu croche. Elle dit, oui, c'est lui. Hey, c'est fantastique, parce que tu sais, tu vois des gens en action dans un vrai film qui a été tourné en 52.
Uh-huh.
On voit le Palais Montcalm, on voit la Porte Saint-Jean. Et puis, c'est épuré, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde. C'est épuré, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus. Il y a des bâtiments. Mais à l'époque, c'était plus vaste un peu, tu sais. Puis il y a une maison à Saint-Tite qu'on voit, où maintenant ils sont pris dans un orage, le prêtre, dans son ancienne vie, avec son amoureuse. Et on les voit courir sur la côte de Beaupré. C'est magnifique. C'est très, très bien.
Ouais. Fait que c'était plein?
C'était plein à craquer. Puis je te dirais qu'on a ouvert les portes à 2 heures. Puis je te dirais qu'à partir 1h20, là, c'était pas mal plein déjà. Oui.
Fait que ça a bien fonctionné. Merci beaucoup d'avoir offert ça aux gens de Québec. Oui. Parce que j'ai lu certains articles qui disaient que c'était gratuit. Là. C'était oui. gratuit pour les gens qui se présentaient. Mais
c'était
dans
pas gratuit
vie...
pour moi, mais c'était gratuit.
Dans vie, il n'y a jamais rien de gratuit.
Mais sais-tu quoi, quand je fais des événements comme ça, Yannick, ouais. là, il y a toujours la question de la billetterie. Tu sais.
Ouais.
Et là, j'ai communiqué avec le CLAP, puis je leur ai dit, bon, si billetterie, pas de billetterie, etc. Bon, là, si tu as une billetterie, ça devient plus compliqué. C'est quoi le prix? Là, il faut que les gens fassent la file.
Mm-hmm.
Il faut qu'ils payent, qu'ils cherchent un billet. Ça peut être un peu dissuasif pour certaines personnes. Il y a des gens qui vont dire « c'est gratuit, je vais y aller ». Mais je ne pense pas que les gens y vont nécessairement parce que c'est gratuit, mais ça simplifie beaucoup la procédure.
Ouais.
Alors, il y a une file, on a mis un cordon de sécurité, les gens passaient, puis c'était clair. Puis le prochain événement que j'organise, c'est le 1er mai, c'est Raoul Duguay. Toi, t'es jeune.
Oh boy, Raoul Duguay.
L'Abitibi.
Moi, je viens de l'Abitibi. Ouais, exactement. Moi, je viens de l'Abitibi.
C'est ça. Alors, Raoul Duguay.
Ouais.
Fait un livre sur Jean-Paul Riopelle.
Oui.
Il est en train d'éditer ça, des poèmes. Puis, j'ai été en contact avec lui. J'ai dit, tu vas venir présenter ça à Québec. Il dit oui. Fait que j'ai loué une salle au Palais Morgan le 1er mai. Raoul Duguay en spectacle avec un piano, un flûtiste, la grosse affaire. Et puis, c'est gratuit aussi. Puis, quand j'ai dit au Palais Morgan, c'est gratuit, il a dit, ah, vous nous faites tellement plaisir, M. Bellemare, parce que là, ça libère de bien des affaires.
Ouais.
Pas de tickets, pas de ci, pas de ça. Mais évidemment, tu arrives assez tôt pour avoir une place. Mais c'est une salle de 200-210 personnes.
Ah, puis pour les gens qui n'ont jamais été là, c'est magnifique, cette salle-là.
Ben oui, ouais. Exactement.
Puis,
premier mai.
Ouais.
Le mois de Marie, c'est le mois le plus beau.
Ben, c'est le fun d'être ami avec Marc Bellemare. C'est tout le temps gratis, les soirées mondaines.
Non, mais c'est pas si pire. Je pense que ça coûte 600$ pour louer la salle. On a l'impression que ça coûte une fortune,
ouais.
Mais c'est pas si pire. Puis là, j'en organise comme ça de temps en temps des événements. Fait que je commence à savoir un peu comment ça marche.
Ben oui.
Mais la Hitchcock, on pouvait pas faire ça ailleurs que là. Parce qu'au Capitole, était un cinéma autrefois en 1953, ouais. Quand ils ont présenté le film Icon Fest de Hitchcock, La loi du silence. C'était un cinéma avec des bancs puis tout, là. Aujourd'hui, c'est plus un cinéma. C'est des petites tables, c'est cabaret, puis c'est des spectacles.
Mais ça a
à
changé.
À l'époque,
quand?
C'est un cinéma.
On dirait que moi,
je ne sais pas.
J'ai l'impression que dans ma vie, j'ai été voir au moins un film au Capitole.
Ça se peut, mais ça doit faire. Tu devais être bien jeune.
Mais pour les auditeurs, ça a changé quand, cette vocation-là? 418-971-101, 418-971-101. Parce que, tu sais, des fois, quand on est jeune, on écoute plein d'affaires. Mais j'ai l'impression que j'ai vu au moins un film à cet endroit-là. C'était-tu E.T.? Je sais pas, là. Mais j'ai l'impression d'avoir vu un film. Hey, on passe du coq à l'âne. On aime bien ça, nous autres. Quelle histoire triste qui s'est passée dans le secteur de Saint-Ubalde, hein? Maître Bellemare, cette mm-hmm. jeune fille qui faisait un fort avec ses amis et avec une autre petite fille. Et puis, finalement, le fort s'est écroulé sur elle, décédée. Quelle histoire!
7 ans, je pense. Hein?
Elle était avec une petite... Elle a 9 ans, de ce que je comprends. Là. Elle avait 9 ans, elle. Puis elle était avec une autre petite fille de 7 ans. Puis, il y a eu des manœuvres de réanimation qui ont été amorcées très rapidement. Puis, elle n'a jamais repris conscience. Donc, son décès a été constaté à l'hôpital. Puis, l'autre enfant a subi des blessures. Mais pour elle, on ne craint pas pour sa vie. Mais ce genre d'histoire-là, ça arrive à chaque hiver. Quand j'étais jeune, je me souviens que les vieux m'achalaient, tu sais. Faites attention quand vous faites ce genre de fort-là.
Un tunnel en dessous des fois, tu as un poids considérable
puis
au-dessus
nous
de la tête.
Nous autres, ils nous parlaient de la guerre des Tucs. Tu sais, le chien qui est décédé dans l'effondrement du fort, là.
Ouais, ouais.
Ben, il nous parlait, tu sais, Chloé, je pense, ou Cléo. Cléo. C'est, le chien s'appelait Cléo, puis il est décédé dans le fort, puis il nous parlait de ça. Puis on était conscientisés par ça. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on entend rarement des parents dire à leurs enfants « Hey, le fort, là, faites attention, ça peut vous tomber dessus. » Malgré que nous autres, on a pris des risques aussi dans le temps. Là. Mais ça arrive à chaque hiver, ça.
Ah, c'est ça. C'est très dangereux, puis c'est malheureux, ce genre d'événement-là, effectivement. Mais tu sais, toi, si tu as un fort chez vous, il faut que tu sois prudent. Là. Des fois, si tes propres enfants, il faut que tu les surveilles.
Puis ils en font des autres.
Puis moi, je vois des fois les gens qui ont des beaux tas de neige en avant de chez eux, là, puis tu vois les enfants qui glissent.
Oui.
Puis il y a de l'asphalte en bas, puis il y a des chars qui passent. Là. Fais attention, là, parce que le petit, à un moment donné, il peut descendre. Il y a du fun, lui, là. Il descend, puis il y a un char qui passe, ou il peut s'assommer sur l'asphalte. Surtout au printemps, c'est un petit peu plus risqué. Il fait plus doux, les enfants sortent dehors plus longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller comme parent, parce que c'est des petits voisins qui viennent jouer avec tes enfants, puis tu ne surveilles pas, tu peux te retrouver avec un méchant problème sur les bras. Malheureux.
Ouais. On me dit que j'aurais probablement été au cinéma de Paris. Est-ce que c'est ça? Je pense pas ça.
Ça se peut.
Quelqu'un qui me dit ça. Mais en bref, j'ai été voir beaucoup de spectacles, mais pour ce qui est de présentation de films, de mémoire, j'en ai au moins vu un, mais nous autres, on allait plus au cinéma Charret, en bas.
Oui, qui a fermé, effectivement.
Ouais.
Mais il y avait aussi, le Clap aujourd'hui se trouve dans un endroit où il y avait un cinéma, si je me souviens bien. Derrière, au maire de Serre, sur le Bois Laurier, là, il y avait un cinéma dans le temps qui était là.
Ah ouais?
Oui, puis à un moment donné, ça a fermé. Après ça, tu as eu le cinéma de la capitale, aux galeries de la capitale.
Mm-hmm.
Ça a fermé aussi. Après ça, tu en as eu un autre sur la rue des Gradins, je pense. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Boulevard des Gradins, oui.
Il y avait des cinémas qui étaient là aussi. Aujourd'hui, c'est le cinéma Cinéplex Beauport, Cinéplex Sainte-Foy.
Puis on a les Clap.
Puis les deux Clap, Loretteville, puis Laurier. Puis il y a le cinéma des Chutes aussi, de l'autre bord du pont, là, à Saint-Nicolas.
Mm-hmm.
Il y a le Lido à Sainte-Foy, mais ça diminue. Les gens sont sur leur écran, c'est facile. Puis aujourd'hui, tu as les films à peu près en même temps. Là. C'est sûr que tu as Netflix, tu as toutes sortes de réseaux. Alors, moi, le confort le confort du clap, par exemple, là, pour ne pas le nommer, là, avec la première rangée, les poufs en avant, là, écoute bien, là, t'es dans un, c'est extraordinaire le confort que tu as là, là. Puis il y a des bons films. Et le plaisir d'être dans une salle... non éclairé, avec un écran magnifique, une bonne définition de l'écran, là, c'est... Moi, voir un film chez nous, je suis pas capable, là. Je m'endors.
Ouais.
Puis je suis porté à faire d'autres choses.
Mais il y a quelque chose
j'ai l'impression de perdre mon temps,
ouais. Mais il y a quelque chose de le fun de se déplacer, puis d'aller voir un film, puis, tu sais, de voir du monde, puis s'acheter ce qu'on a à s'acheter, puis après ça, aller dans la salle, puis attendre, puis voir les autres films qui sont... Il y a quelque chose que j'aime, moi, à ça. Mais j'ai pas l'impression que dans 20 ans, dans 30 ans, ça va être encore des salles de cinéma.
Ben, les gens, parce que les jeunes, c'est les petits écrans. Puis bon, avec. Moi, je pense que tu as raison. C'est vraisemblablement une industrie qui va, en tout cas, les distributions de films là, vont devoir s'amender, faire en sorte que ça puisse rentrer dans la maison chez vous. À un moment donné, tu vas avoir un film qui va sortir, puis ça sera plus dans les salles. C'est ça qui va arriver parce que la fréquentation diminue, c'est comme d'autres choses.
Mm-hmm.
Mais tu sais, il y a les blockbusters, là, les gros films pendant la semaine de relâche, là, même au clap, là, c'était plein d'enfants. Là.
Ouais.
Moi, je le vois parce que ça prend du temps avant que tu aies ton popcorn. Quand ça fait 20 minutes, là, ça prend 20 minutes avant que tu aies ton popcorn puis ton coke là, ou ton café. Là. C'est long, là, mais ça, c'est quand il y a beaucoup d'enfants.
Ouais.
Les enfants y vont, mais le cinéma, c'est amendé aussi. Tu as beaucoup de films d'animation. De technologie, puis de trucage, toutes sortes de choses. Alors, ils essayent de survivre, mais t'as raison. Dans 30 ans d'ici, moi, je ne mettrais pas ben des sous sur l'avenir du cinéma en salle.
On parle d'affaires policières. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est dans le secteur de Montréal. On parle du docteur Craig Smith, qui est pour une deuxième fois trouvé coupable d'inconduite sexuelle sur une jeune patiente pour des faits qui se sont commis en 2018. Lui, il avait recommencé à pratiquer en juillet dernier après avoir purgé une radiation de 3 ans. Et ce qu'il aurait fait, il faut dire que c'est un médecin qui est généraliste. Puis, il y a une jeune patiente de 20 ans qui le consultait, lui, pour de l'acné dans le front. Et lui, ben, il a dit « déshabille-toi ». Et il a fait carrément un test comme si elle était chez le gynécologue, là, donc un examen gynécologique. Et elle ne comprenait pas beaucoup le lien entre les éruptions cutanées au front et un examen vaginal. Elle a décidé de porter plainte et finalement, pour une deuxième fois, il a été blâmé, le docteur.
Oui, c'est ça. Alors lui, il dit qu'il soupçonnait la présence... C'est tellement ridicule, là. On n'est pas médecin, là, mais à un moment donné, il soupçonnait la présence d'une vaginite ou d'une infection transmise sexuellement de par le sang. Alors, c'est pour ça qu'il a inséré un seul doigt dans son vagin et peut-être fait des mouvements circulaires. Mais là, c'est pas tout, là. Par la suite, la jeune femme a dû se lever. Il lui demande de se pencher vers l'avant à environ 45 degrés. La normale, c'est 90, là. Lui, il est à 45, donc elle est pas mal penchée. Il écarte ensuite ses fesses pour faire un examen visuel de la zone anale et périanale. Visuel. Lequel dure environ 10 à 15 secondes. Alors, le Dr Smith, qui pratique depuis 2003, n'a pas nié avoir procédé de cette manière, a indiqué que c'est une technique reconnue. Le conseil a plutôt jugé que ceci est un geste abusif à caractère sexuel. Le conseil, là, c'est des médecins. C'est des pairs, P-A-I-R-S. C'est des gens qui sont du même calibre professionnel que toi. C'est le fondement même de tous les codes, de tous les comités de discipline. Et il n'a pas été cru, donc il a été sanctionné. On dit qu'il doit pratiquer juste avec des hommes, là, tu sais. Okay. Tu sais, qu'est-ce que ce gars-là fait en médecine au Québec? Parce que c'est pas écrit sur la porte « je suis un maniaque sexuel ».
Mais si c'est une agression sexuelle, ça devrait pas être criminel.
Bien, normalement, ce que font les ordres professionnels dans ces cas-là, c'est qu'ils transmettent le dossier d'enquête au DPCP, qui, lui, peut porter des accusations de nature criminelle. Parce, parce que c'est rien de moins qu'une agression sexuelle. Écoute, c'est un contact non consenti. Bien que la fille a dit oui, mais elle a dit oui parce que ce n'est pas un véritable consentement. Là, elle a dit oui en pensant que le médecin, dans sa compétence, avait une solution à son problème et qu'elle allait la débarrasser de l'acné. Parce qu'autrement, là, on lui a volé son consentement. Elle n'aurait jamais consenti.
Parce qu'en 2019, le Dr Smith avait été radié à 3 ans pour avoir pris en photo les parties génitales d'une de ses patientes à son insu puis d'avoir tenté d'en photographier une autre avec son cellulaire alors que la patiente avait les seins nus. Et à ce moment-là, il avait reçu une sanction un peu plus clémente que le minimum de 5 ans qui était prévu par la loi. Donc, ce n'est pas la première fois là, que l'individu semble avoir des problématiques avec des jeunes patientes.
Oui, c'est ça. Mais selon le psychiatre qui le suit depuis 2018, ça va pas bien, il est suivi par un psychiatre depuis 5 ans, celui-ci ne présente pas de risque de récidive, mon œil. C'est déjà arrivé, puis là, bon. Alors, il dit qu'il a senti de la honte et de l'embarras, mais moi, ce qui me fascine, c'est pourquoi ce gars-là continue de pratiquer. Parce que un ordre professionnel... La mission d'un ordre professionnel, c'est pas de protéger les médecins ou les avocats, c'est de protéger le public. Alors ici, en quoi le public est protégé par le fait que ce gars-là continue de pratiquer, tu sais? Ça jette beaucoup de discrédit sur le corps médical. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois ça, tu te dis, il y en a combien des docteurs Smith au Québec, là? D'un campagne, d'un ville, un peu partout, puis qui pratiquent, puis on ne sait pas trop, tu sais?
Ouais.
C'est pas écrit dans le ciel, là, ça, à moins que ça soit couvert. Puis même là, c'est dans le journal, mais tu sais, docteur Smith, tu sais. À Montréal. Il y en a peut-être, il y a quoi, une vingtaine des Dr. Smith à Montréal? Là,
c'est comme les Éric Tremblay, les Jean-François Tremblay, il y en a des milliers
au Québec. Oui, puis tu sais, avec la pénurie de médecins, on sait que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille.
Ouais.
Alors lui, il va avoir des clients à pleine porte pareil. Là.
Ah, c'est ça. Mais c'est assez particulier de voir ça. Puis, tu sais, moi, j'en parlais ce midi avec Élodie, qui est ma collègue dans Marceau le midi. Puis, moi, je suis un père de famille. Là. J'ai 2 gars, là. Mais si j'avais eu 2 filles, tu sais, moi, je ne sais pas, là, ce qu'un médecin peut faire puis il peut ne pas faire, tu sais. Dans le cas où il demande à ma fille de se coucher sur la table puis d'écarter les jambes alors qu'elle, la consulte pour de l'acné dans le front, j'ai pas la formation du médecin. On est comme laissé à nous-mêmes dans ça, puis le médecin, lui, dans le fond, il a ses propres connaissances que nous, on n'a pas. Fait que tu dis, OK, ben je vais y donner ma confiance. Puis après ça, ben là, c'est rendu comparé par les pairs. Non, c'était pour l'acné du front, là, ça n'a pas rapport, là.
Mais la morale de cette histoire, Yann, là, c'est que si vous sentez qu'il y a une faute ou qu'il y a un examen abusif, parce que les gosses, je pense que c'est moins, il y a moins de risques, bien qu'il y en a quand même. Moi, j'ai des clients qui ont été victimes d'actes criminels, des abus sexuels, même des hommes d'âge mûr, avec des urologues de Québec. Là. J'en ai eu un, il a été accusé, le bonhomme. Là. Un gars d'une 60aine d'années qui a été victime d'abus sexuels de la part de l'urologue. À toutes les fois qu'il allait là, il masturbait pour voir comment était le sperme. Ça a duré des années.
C'est le médecin qui masturbait le patient?
C'est le médecin. Là, il est accusé au criminel, là. Mais mon client, le gars qui a été victime de ces gestes-là, lui pensait que ça faisait partie de la pratique médicale, puis c'était normal, il faisait confiance. Mais si tu as des doutes, porte plainte au moins au Collège des médecins. C'est pas très difficile, tu peux regarder sur Internet, Google, porter plainte contre un médecin, toute la procédure est facile. Tu peux faire ça sur le web, envoyer ta plainte, prends pas de chance, parce qu'on est tout seul, puis on sait pas trop si le geste est correct. C'est pas à vous d'en juger, mais si vous avez des suspicions, dénoncez. Puis c'est à ce moment-là que le Collège des médecins va voir que et ça fait 12 plaintes qu'on a, là, on va peut-être grouiller. Puis des fois, c'est sur un certain nombre d'années. Mais ça prend tellement de preuves avant d'en arriver à obtenir une radiation, même temporaire, que vous faites partie de la solution. Puis si vous ne portez pas plainte, bien, vous ne faites pas partie de la solution. Puis il va continuer de faire les mêmes abus. Puis là, je ne parle pas juste des médecins, je parle des avocats, des arpenteurs géomètres, des architectes, des ingénieurs. C'est les mêmes règles partout. Dans tous les ordres professionnels au Québec, il y a un syndic qui est là pour recevoir les plaintes, en disposer. Il peut les rejeter comme il peut les accueillir. Puis à ce moment-là, il peut donner suite puis porter plainte contre le professionnel devant un conseil de discipline qui est constitué de gens de sa catégorie puis qui va rendre une décision. Mais vous n'avez rien à perdre. Puis le syndic est capable de juger s'il y a assez de preuves pour aller de l'avant avec ça.
Puis je me pose la question, tu sais, t'es médecin, t'es gynécologue, ça doit être stressant en 2023 de faire ton travail.
Là. C'est sûr. Eh oui, c'est sûr, parce qu'il peut y avoir des plaintes qui sont non fondées, c'est bien sûr. Non fondées. Il y a des éberlués partout.
Puis tout est une question de perception. C'est ça. Si elle s'est sentie lésée dans le traitement, là, je ne sais pas, que le médecin lui fait, elle peut porter plainte. Là, c'est un stress supplémentaire. Tu dois continuer de faire ton travail. Tu te fais accuser de ci, accuser de ça. Il faut que tu expliques ça à ta conjointe.
C'est ça. Parce qu'il y a des gens, écoute, un généraliste qui a une pratique assez régulière peut voir 50-60 patients dans une journée. C'est certain qu'il y a des éberlués là-dedans, puis il y en a qui vont dire, bien là, il ne m'a pas écouté, puis il m'a prescrit le mauvais médicament, puis moi, il y a des médecins qui me racontaient qu'avec Internet, les gens rentrent dans le bureau avec leurs feuilles, puis ils disent, hey, je veux avoir tel médicament, puis non, tel test, là, je vais peut-être avoir le cancer, je ne veux pas ça. Les gens sont de plus en plus, tu sais, ils vont chercher de l'information sur le web.
Ouais. Sans avoir les connaissances, là.
Puis moi, je le vis comme avocat, parce que des fois, j'ai des clients, des fois, qui viennent me voir, puis qui disent, ah non, c'est... L'article 473 dit que je peux faire ça. Moi, je veux faire ça. Ou bien donc, envoyez donc une mise en demeure à telle personne parce que l'article 2243 du Code civil n'a pas été respecté. Oui. Ben, des fois, ils peuvent avoir raison, mais c'est toujours un peu... Tu te méfies toujours un peu de ce genre de personnes-là, mais ça ne veut pas dire que c'est une faute professionnelle pour autant ou que ça justifie une plainte au syndic. Mais ce que je te dis, c'est que les gens ont des attentes en termes de contenu, des fois, qui sont un peu dirigés puis qui sont un peu excessives par rapport à la règle scientifiquement reconnue.
Ouais. Mais pour ceux qui sont hypochondriaques, un peu comme moi, là, quand j'ai des symptômes puis je commence à écrire mes symptômes sur Google, ça finit tout le temps genre cancer généralisé.
Quand tu fais une semaine, t'es pas allé aux toilettes, là, tu t'inquiètes.
Ouais, c'est ça. Hey, on parle d'un sujet qui est un peu plus sérieux, Maître Bellement. Un homme qui donne un témoignage dans le Journal de Québec, un témoignage à arracher le cœur. On lui a arraché sa femme. Sa femme a été tuée par un automobiliste qui, lui, ne contrôlait pas son diabète. L'automobiliste a fait une crise d'hypoglycémie et il a perdu la maîtrise de son véhicule. L'automobiliste, au moment de sauter par-dessus le terre-plein, là, il roulait entre 50 et 60 km/h. Et la femme de l'individu, qui est une femme autour de la cinquantaine, là, Mylène Bergeron...
Elle allait travailler à Montréal.
Exact. Elle allait sans se contraindre, puis elle a reçu le véhicule de plein fouet en face. Donc, un face-à-face, tout ça parce que l'individu ne contrôlait pas son diabète. C'est sanctionné, hein, le diabète. Là. Quand vous faites du diabète, là, la SAC est très, très, très sévère à votre égard, de ce que je comprends, mais encore faut-il que la SAC en soit informée de votre problématique avec votre diabète, parce que dans le cas de l'individu qui a tué cette femme-là, il a consulté deux fois en urgence à l'hôpital pour des épisodes d'hypoglycémie. Donc, on parle de syncope. Et on parle de perte de conscience en 2015 et 2017. Et il n'y a aucune déclaration qui a été faite à la SAAC. Et c'est ce qu'a mentionné le coroner. Ça ne s'est pas rendu à la SAAC.
Tu es supposé déclarer un changement significatif dans ton état de santé dans les 30 jours. Tu es supposé le déclarer à la SAAC. Mais tu sais, l'épilepsie, par exemple, c'est très, très bien encadré. Et puis, on l'a vu dans le cas de la petite mère, là, il y a quelques années, qui s'est faite faucher devant le CHUL, là, qui traversait pour aller à la place Laurier.
Une dame enceinte, oui.
Puis, le chauffeur, qui est un dénommé Laroche, a été accusé parce qu'il sortait de l'hôpital où le neurologue avait dit de prendre ses pilules, il ne les a pas pris. Il a fait une crise d'épilepsie, il a tué la petite fille. La mère, je pense que l'enfant a survécu, mais la mère est morte. Alors, il a été accusé de négligence criminelle causant la mort. Il a été condamné.
Oui, Jonathan Falardeau-Laroche.
Pourquoi on ne le ferait pas pour le diabète? Mais là, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Puis effectivement, les lois sont un petit peu plus sévères du côté de l'épilepsie, les troubles cardiaques. Dans le cas du diabète, c'est un peu plus compliqué. C'est plus sournois. Puis quand est-ce que l'individu peut dire, moi, vraiment, mon état de santé me rend dangereux, tu sais, à moins qu'il ait fait des crises similaires dans les heures ou les minutes qui précèdent. C'est bien difficile pour la couronne de pouvoir déposer des accusations de cette nature-là. Là. Mais c'est arrivé à Montréal, ça aurait pu arriver n'importe où au Québec. Mais effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui sont à vérifier du côté de la SAC par rapport à cette maladie-là. Parce que le diabète, ça peut causer des comas, effectivement, ouais, aussi.
Ce qu'on peut lire, c'est que le diabète est incompatible avec la conduite d'un véhicule routier, sauf si la personne n'a aucun épisode d'hypoglycémie en état d'éveil entraînant une altération de la conscience et nécessitant l'intervention d'une tierce personne depuis 3 mois. Démontre une bonne compréhension de sa maladie et fait l'objet d'un suivi médical pour son diabète. Et tout automobiliste qui a un changement de santé peut affecter sa capacité de conduire, doit absolument, et ça c'est lui qui doit le faire, avertir la SAC dans un délai de 30 jours. Puis la SAC peut maintenir le permis ou encore le suspendre. Chaque cas est évalué individuellement. Mais n'en demeure pas moins qu'en bout de ligne, ça a enlevé la vie d'une personne de 55 ans qui, elle, ce qu'elle voulait, c'est faire ses projets avec son mari. Là. C'est une mère de 2 enfants. Ouais. Il y avait plein de rêves et là, son mari est complètement atterré de ça.
Absolument.
Il comprend absolument rien de ce qui s'est passé. Lui, il dit, ma vie est fuckée, là, en raison d'un individu qui est un peu irresponsable par rapport à sa maladie.
Mais toi, là, honnêtement, là, toi, t'es le gouvernement du Québec, là. Puis tu as le pouvoir de faire ce que tu veux, tu prévois quoi, là? Comment tu gères ce genre de situation-là? Est-ce que le gars, il est au courant que il fait de l'hypoglycémie? Est-ce qu'il s'en rend compte? Est-ce qu'il se rend compte qu'il en fait à telle enseigne qui est dangereux, qu'il va perdre conscience? C'est difficile à savoir parce que c'est... Ouais. Le diabète en soi, il y a des diabétiques qui n'ont jamais de problème.
Mais le coroner a réussi à reculer de plusieurs années pour trouver que l'individu avait consulté des médecins pour son diabète, pour des problématiques qu'il avait connues, et la SAC n'a jamais été informée. Donc là, il y a faute professionnelle de la part des médecins. Si on est plus rigoureux, c'est à chaque fois qu'on pogne un médecin qui ne transmet pas les rapports à la SAC, peut-être que les médecins, ils vont se sentir un peu plus serrés dans le short, là.
Ouais, il faudrait créer dans la loi une espèce d'obligation avec des sanctions qui obligerait le médecin de rapporter tout. Mais là, si tu décides de sanctionner puis d'enlever les permis à tous les diabétiques du Québec, il va y en avoir un sacré lot qui va en tuer le carreau.
Mais le point n'est pas là. Je pense que les trucs que la SAC mentionne, c'est que c'est bien encadré, puis il faut que la personne soit consciente de son état. T'sais, dans le cas du jeune homme que vous me parliez tout à l'heure, qui avait des problématiques, c'était des épisodes d'épilepsie, lui, il était conscient de son problème, mais il était inconscient dans sa façon d'agir. Il travaillait et il devait utiliser les véhicules. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais on lui a donné des années de tôle, fait que c'était une bonne affaire. Mais lui, tout le monde autour de lui savait qu'il y avait une problématique. Ses chums le conseillaient en disant « tu ne dois pas prendre ton char ». Puis il y a des gens qui étaient près de lui qui le laissaient utiliser des véhicules de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Là.
Ouais.
C'était des gens qui étaient parfaitement au courant que ce gars-là avait des crises d'épilepsie, et ce, même en conduisant.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, des irresponsables, on doit les sortir, mais les professionnels qui doivent gérer ces irresponsables-là doivent rendre des comptes à la SAC. Là.
Ouais. Mais je te parle, entre autres, de l'apnée du sommeil.
Ouais.
L'apnée du sommeil, c'est un problème qui frappe beaucoup de gens, même des jeunes. Des plus vieux qui font un peu de surpoids. C'est une maladie très, très répandue aujourd'hui. Ça se soigne avec des prothèses dentaires, ça se soigne avec des machines, des CPAP, etc. Mais il reste qu'il y a des gens qui sont, dans l'après-midi, là, qui s'endorment facilement.
Ça s'appelle des conduites avec facultés affaiblies. Vous n'avez pas le droit de conduire.
Ils prennent le char, puis ils s'endorment un feu rouge, ou ils s'endorment un stop, ou ils sont pas capables de fonctionner, ou bien, à un moment donné, il pogne le fixe, comme on dit.
Il y a des dispositions dans la loi pour ça.
Oui. Parce que l'épilepsie, je te le dis, là, c'est plus facile, je pense. Parce que si tu as fait des crises, tu peux clencher n'importe quand. Mais il y a d'autres genres de problèmes, tu sais, qui sont un petit peu plus difficiles. Faudrait imposer ça au médecin. Mais le médecin va faire un rapport pour dire, ben là, il fait de l'apnée, donc il est susceptible de s'endormir. Je sais pas.
Ça devient
compliqué, à un moment donné.
C'est arrivé à quelqu'un avec...
C'est juste la gestion. Je suis d'accord avec le principe. Même que moi, cet article-là, je l'ai commenté. Là,
ouais.
Puis je dis, il faudrait qu'il y ait des règles plus sévères puis qu'on ait un encadrement médical. Je suis d'accord, surtout avec la population vieillissante. Il y a des gens de 75-80 ans qui ont de multiples maladies qui peuvent venir des pertes de conscience, de la somnolence, des comportements erratiques, avec la médication en plus qui se mêle de ça.
Ouais.
Mais là, ce que les contrôles de ça, ça devient fastidieux.
C'est ça. Mais la
personne, c'est là que j'en suis.
La personne est fatiguée, elle est consciente qu'elle est fatiguée, elle prend son véhicule, elle tue quelqu'un. La personne est dans le tort, là. Elle a une responsabilité. Là.
Ouais, c'est sûr.
Moi, j'ai quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui avait pris, c'est ce qu'il m'a raconté, il avait pris 3 gravoles. Il conduisait sur l'avant, puis il voyait des affaires qui n'existaient pas, des fourmis dans son char.
Okay.
Puis là, il a commencé à se concentrer ses fourmis.
J'espère que t'as pas embarqué avec.
Il a pogné le dallo, puis il a fait un accident. Les policiers, ils ont dit, tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, il y avait des fourmis dans mon char. Les policiers se sont intéressés à lui, tu sais, des fourmis dans ton char.
Il a pris des pinottes, certains.
Puis là, il a dit, oh, là, j'avais mal au cœur, fait que j'ai pris des gravats. Ah, oh, ouais, il est avec moi. Ils ont fait rencontrer un agent évaluateur. Je pense que c'est ça qu'on appelle ça. Il a fait le test de la chambre noire avec les pupilles et tout ça. Ils ont découvert qu'il n'était pas en état de conduire parce qu'il avait pris des gravoles. Puis il a été sanctionné pour la perte de son permis de conduire. À ce moment-là, moi, je sais.
Faculté affaiblie.
Faculté affaiblie.
Bon, on est porté à penser que c'est juste l'alcool qui affaiblit les facultés, pas pantoute.
Mais c'est la fatigue. C'est
ça peut être juste la fatigue.
Les mélanges de médicaments.
Ça peut être juste la fatigue sans nécessairement que tu aies de. Tu sais, comme en revenant du hockey, là. Ta blonde, ton ex-blonde, elle a arrêté à Drummondville, mm-hmm. là, mais il y en a plein qui auraient continué. M'a donné, mais là, ça devient compliqué à prouver. Puis c'est sûr que sur l'ensemble des accidents qui surviennent sur le réseau routier, c'est pas toujours facile d'intercepter quelqu'un. Puis si tu n'as pas d'échantillons sanguins, puis de drogue dans le sang ou d'alcool, bien là, si c'est juste une maladie ou le vieillissement ou l'endormissement, ça devient compliqué à gérer, mais effectivement, il devrait y avoir plus de contrôle. Mais as-tu remarqué, la SAC, là, ils ont dit les maladies neurovégétatives, là, puis les maladies neurologiques, là, on va suspendre les permis après 70 ans, je pense.
Mm-hmm.
Ça a été tout un tollé, là, ça a été la grosse affaire. Parce que là, on enlèverait le permis de conduire à des papis. Puis ça, c'est un sacrilège, parce que les papis qui restent en campagne, surtout, là, il n'y a pas d'autobus, là, ils sont obligés de prendre leur auto.
C'est plus à eux autres que je pensais, parce qu'au centre-ville, il y a moyen de t'organiser.
Mais on s'en va là. On s'en va là tranquillement, là. Puis, tu sais, le pouvoir gris, le grey power, comme on l'appelle aux États-Unis, là.
Ouais.
Évidemment, c'est une masse importante pour les gouvernements.
Les baby boomers.
C'est des votes. Alors là, on fait quoi avec cette clientèle-là qui peut être à risque, mais qui ne se sait pas à risque? Moi, je reçois au bureau continuellement des gens qui viennent me voir pour des permis de conduire. Puis là, ils m'ont enlevé mon permis, ils m'ont demandé un rapport médical. J'ai jamais eu d'accident. Ouais. C'est toujours l'argument. J'ai jamais eu d'accident. Je comprends que tu n'as jamais eu d'accident. T'en as-tu provoqué, par exemple? T'as-tu regardé sur ton rétroviseur? Ouais, m'a donné ça. Quelqu'un qui...
Mais c'est délicat, ça m'arrache le cœur. On parle du cas d'un individu de 80-85 ans. Sa femme est morte. Ses enfants, ils habitent dans des endroits différents. Son seul loisir, c'est sa voiture. C'est sa maison. Fait que lui, là, il s'en va au McDo prendre son café le matin. Il s'en va voir ses chums à la Ligue du Vieux-Poil. Après ça, il retourne chez eux. Mais il n'y a pas de service d'autobus, taxi. Il n'y a rien. Fait que quand tu enlèves son permis de conduire, c'est ça.
C'est la peine de mort.
C'est va-t'en chez vous, puis attends la mort.
Ouais, ouais. Puis le fait de ne pas pouvoir conduire, mais en même temps, conduire, c'est une activité qui est stimulante au plan cognitif.
Oui.
T'as besoin de bons réflexes. Fait que on dit faire des mots croisés. On dit aux personnes âgées éloigner l'Alzheimer en restant actif cérébralement. C'est important. T'sais, Lucien Bouchard, 83 ans, il travaille encore dans un bureau d'avocat à Montréal. Puis il me racontait que lui, il ne va plus plaider parce que plaider, c'est un peu plus exigeant que faire du bureau. Il fait de la négo, il fait des deals. Il travaille avec des grosses compagnies,
mm-hmm.
puis il se tient en forme, puis il se présente au bureau tous les matins, puis il a 83 ans. Fait que c'est sûr que le travail, l'automobile, ça stimule, c'est des activités qui ont certaines exigences au plan cognitif. Ça tient le cerveau en forme, puis ça t'éloigne d'un certain nombre de maladies, notamment des maladies mentales, comme la dépression et ces choses-là. Mais alors, c'est difficile de tirer la ligne, puis de dire, écoutez, vous êtes un danger public, on va vous enlever votre permis de conduire. C'est difficile, mais à un moment donné, dans certains cas, il va peut-être falloir le faire. T'sais, moi, je me souviens, mon père, qui est décédé en 95, ça fait bien des années, mais à un moment donné, mon frère, le plus vieux, avait embarqué avec lui, puis il disait, « Papa, il longe les chaînes de trottoir, tu sais. Il longe les chaînes de trottoir, puis il s'en aperçoit pas. Ben, » il y avait 80 ans à l'époque.
Ouais,
il y a des gens de 90 ans qui conduisent de façon impeccable, puis il y a des gars de 20 ans qui ne savent pas chauffer. Ça sera toujours le cas. Mais tu sais, quand vient le temps de mettre des règles avec l'importance que l'automobile a dans nos vies, aujourd'hui, le déplacement, tout ça, quand la SAC met des règles pour ça, les maladies, l'épilepsie, le diabète, l'apnée du sommeil, à un moment donné, là, ça devient assez compliqué. Puis il y a beaucoup de jugements médicaux là-dedans. Tu as des médecins qui vont dire, il n'y a aucun problème à conduire. Puis tu en as d'autres qui vont dire, on y enlève son permis.
Ouais.
Mais l'homme le plus puissant du monde libre, Joe Biden, qui était de passage au Canada il y a de ça quelques jours, tu sais, c'est le président des États-Unis.
Il manque une marche.
Il manque des marches. Il serre des mains dans le vide. Et des fois, il s'en va dans la haie alors qu'il devait aller s'asseoir. Des fois, il salue des gens dans la foule qui sont décédés. Tu sais, la vieillesse, là, il y en a qui vieillissent bien, il y en a qui vieillissent mal.
Il s'est trompé, je pense, Canada versus Cuba.
La Chine.
La Chine, c'est ça.
Il a félicité la Chine.
Je savais pas qu'on avait les yeux bridés à ce point-là.
Il a félicité la Chine alors qu'il voulait féliciter le Canada. Mais ça, c'est anecdotique, là. Mais tu sais, vous toffez longtemps, les avocats, là. Vous m'avez parlé de Lucien Bouchard. Mais Guy Bertrand, là, j'y ai parlé avant les fêtes. J'avais un podcast à faire avec. Il me disait, là, Yannick, je ne peux pas. Je travaille 7 jours sur 7 sur téléphone.
Guy Bertrand est rendu en 85.
86. Il est encore dans son bureau, travaille 6 jours sur 7.
Oui, oui. Puis quand il a fait son point de presse sur le tramway, là, il était assez vert, là, il était assez lucide.
Non, il est allumé.
C'est vrai, mais en même temps, tu me fais penser, les ordres professionnels, on parle de la conduite automobile, mais les ordres professionnels par rapport à des médecins, dans 75, 80, les avocats, les ingénieurs, tous ceux qui travaillent, puis ça ne paraît pas nécessairement. Quand est-ce que tu peux voir qu'il y a des problèmes, tu sais, que ça fait 4 fois que l'avocat répète le même argument devant le juge? Mm-hmm. Parce que des fois, même si on est sain d'esprit, on répète 4 fois parce qu'on pense que le juge n'a pas compris. Mais il reste que, quand est-ce que tu sens que l'avocat de l'autre bord est en train de perdre des capacités, des fonctions mentales, fonctions cognitives, qui fait en sorte qu'il peut présenter un certain risque pour son client. Il peut peut-être oublier des documents, il peut peut-être oublier de soulever une objection, puis tout ça, mais ça devient très difficile de juger.
C'est ça.
Mais il reste que, pour les ordres professionnels, la problématique va se poser aussi, puis elle doit se poser déjà, parce que les gens vivent de plus en plus vieux. Et avec la petite molécule, tu peux pallier un certain nombre de faiblesses, puis apparemment, du moins, donner des signes de parfaite santé.
C'est ça. Mais Guy Bertrand, avant le téléphone, j'ai parlé au téléphone, t'es allumé,
il est correct.
T'es allumé comme un rond de poêle.
Il est correct.
L'été passé,
j'ai
été faire un petit placotage avec pendant 1 heure là, dans son loft sur la Grande Allée. Là. Il vit là. Hein?
Ben ouais.
Il vit dans son loft à la Grande Allée. Là, puis il travaille comme à tous les jours.
Uh-huh.
Puis là, il me présentait ses livres et tout ça. C'est 86 ans,
puis
il travaille 6 jours.
Il est très fier, Guy Bertrand. C'est un gars qui a tout un parcours. Écoute, depuis Dion, là, Léopold Dion, jusqu'à aujourd'hui, il prend encore des causes importantes. Il fait du média, il parle aux journalistes. Alors, manifestement, il n'y a aucun problème de santé de quelque nature que ce soit. Parce que s'il y en avait, je pense que ça serait soulevé assez vite de la part de cette meute médiatique qui accourt souvent au bureau de Maître Guy Bertrand.
Exact. Maître Bellemare, on va faire une courte pause. Je rappelle qu'on est avec Maître Marc Bellemare. Si vous avez des questions à lui poser, allez-y par texto, les amis. On va faire ça très rapidement après la pause. 418-971-1021. 418-971-1021. On revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le soir.
C'est par texto. Ça vous tente de participer à l'émission, vous pouvez le faire. Il se passe quelque chose sur la route, on veut en être informé. La grandeur, la grande région de Québec, on est là avec vous autres. Merci d'être là, soit dit en passant. Je pense que vous appréciez énormément notre changement d'antenne. Ça a l'air qu'on va plus loin qu'avant et vous nous le mentionnez régulièrement. Donc, merci d'être là. C'est 3 degrés actuellement sur Québec. Nuageux pour ce soir. Des probabilités d'averse à 30 %. Avec le refroidissement éolien cette nuit, ça devrait être une température ressentie de moins 7. Demain mardi, ça devrait continuer à fondre, là, ce qui est tombé en fin de semaine. Alternance de soleil et nuages avec un maximum de plus 5 degrés. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 6. Jeudi, maximum de moins 3, mais une alternance de soleil et nuages. Et vendredi, ce sera maximum de moins 1. Il nous reste quelques minutes, Maître Bellemare, pour vous parler du dossier de Florent Francœur. Qui est Florent Francœur? C'est l'ancien PDG de l'Ordre des conseiller en ressources humaines, donnait régulièrement des entrevues dans les médias. Puis lui, sa retraite, c'était de faire du bénévolat. Et quand il y a eu la fameuse pandémie, Florent Francœur a décidé d'aller faire du bénévolat dans les CHSLD. Et il semblerait qu'il y a eu un épisode où l'homme de 64 ans
n'aurait peut-être pas bien agi avec une patiente et il y avait une autre préposée au bénéficiaire qui faisait le même travail que Florent Francoeur à ce moment-là, qui avait vu les gestes de Laurent Francoeur et elle avait mentionné que là, c'était un cas de police. Incroyable quand même cette histoire-là, parce que lui, ce qu'on nous raconte, c'est qu'il s'en est sorti. Là. Il aurait été acquitté parce que, selon son témoignage à lui, ça a plus de bon sens que le témoignage des deux autres.
Oui, c'est ça. Puis c'est pas la patiente, parce que la patiente avait des problèmes importants, cognitifs. On est le 2 août 2020. 2 août 2020, là, on est en pleine pandémie.
Oui.
Ça va pas bien, là. Depuis le 13 mars, depuis le shutdown, là, on est en pleine pandémie. Et là, M. Legault dit, venez nous aider dans les hôpitaux, on manque de personnel. Alors lui, qui est un homme de 64 ans, qui doit avoir gagné sa vie honorablement, j'imagine, qui n'a pas d'antécédent criminel, il décide d'être embauché comme aide de service dans un CHSLD.
C'est ça. Écoute, préposé aux bénéficiaires,
pas de cours. J'ai du respect pour des gens... En pleine pandémie,
ouais.
Ma fille a fait ça, ma deuxième a fait ça, est allée dans des hôpitaux.
J'ai fait la même affaire.
Il manquait de monde, ramasser des caca, puis ramasser des couches, puis tout ça.
Moi, j'ai fait brancardier, puis j'ai fait agent de sécurité pour Groupe Château-Bellevue.
Bon, tu risques la COVID. C'est la paranoïa la plus totale partout dans le monde. Il y a des morts à tous les jours. Puis ce gars-là s'en va s'embaucher comme ça, et je pense que c'est bénévole en plus. Et puis, il était, selon sa version, il est entré dans une chambre pour ramasser la culotte de la patiente en prenant soin d'enfiler les gants. Il était en train de tirer sur la couche, puis le velcro était collé sur le dos de la patiente quand une collègue est entrée dans la pièce et s'est mise à l'accuser. Alors, il est accusé d'agression sexuelle. C'est tiré par les cheveux. Mais en tout cas, le bonhomme est acquitté parce que le juge, selon le juge, il répond sans détour à toutes les questions qui lui sont posées. Il témoigne de façon précise et détaillée. Les explications qu'il apporte sont raisonnables et détruisent des perceptions qui sont à première vue suspicieuses ou incriminantes.
Parce que selon l'infirmière auxiliaire d'expérience du CHSLD, qui, elle, affirme avoir surpris Francoeur en flagrant délit, son récit n'est pas du tout le même récit que celui de Francoeur. Elle l'avait observé entrer plusieurs fois dans la chambre de la dame à plusieurs reprises, sans motif apparent pendant la journée, et alors que la cloche d'appel n'était pas activée. Donc, elle avait des soupçons sur l'individu.
Oui, c'est ça. Et puis, ça aurait pu être une naine condamnation. C'est parce qu'il y a eu des contacts non demandés ou non sollicités, bien que là, tu es en relation d'aide. Il y a personne qui dit qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans la chambre. Il n'y a personne qui dit qu'il ne pouvait pas porter assistance à cette patiente-là, parce que c'est une patiente. Les CHSLD, par définition, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie sévère, qui ne sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes. Ça joue aussi. Mais la question de la crédibilité, les gens me demandent souvent, c'est quoi la crédibilité? Mais c'est ça, c'est d'être cru. Si tu veux gagner une cause, il faut que tu sois cru. Si tu n'es pas cru, oublie ça, tu vas perdre. Puis le juge va trouver des moyens de te faire perdre. Alors, ce gars-là répondait sans détour. Nous, on n'était pas là. On n'a pas observé les gens, mais la personne qui témoigne. Mais le juge l'a observé. Il a trouvé qu'il avait une bonne attitude. Il a trouvé qu'il n'avait pas l'air d'avoir planifié ses réponses. Il n'avait pas l'air d'avoir organisé son témoignage. Il était spontané. Il devait avoir un body language qui était correct. Il devait avoir une mimique qui était correcte, qui était assortie, associée à ses réponses. Puis le juge a dit que c'est un doute raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Ça veut dire qu'il y a un doute raisonnable. Alors, un doute raisonnable, ça veut dire que ça se peut qu'il ne l'ait pas fait. Et c'est ça, notre droit criminel. La présomption d'innocence, c'est que c'est à la couronne à prouver, hors de tout doute raisonnable, que tu es coupable. S'il y a un doute raisonnable, tu es acquitté. C'est ce qui fait qu'O.J. Simpson a été acquitté il y a bien des années aux États-Unis. Il y avait un doute raisonnable. Il y avait des éléments qui manquaient à l'accusation.
C'était le gant, hein? Le gant n'était pas adéquat.
Le gant était trop petit, semble-t-il. Alors, ben, c'est ça. Non, mais c'est le gant, c'est important.
Ouais.
Alors, dans ce cas-ci, le gars était acquitté. C'est pour ça que les gens nous disent des fois, moi, je ne porterai pas plainte au criminel parce que mon témoignage contre le sien, c'est sûr que ça ne passera pas. Mais on a vu des cas où des gens ont été condamnés, même avec le témoignage d'une seule victime. Alors, un contre un, ça peut marcher. Tout dépend de ce qui se passe dans le bocal. Moi, j'appelle ça dans le bocal, dans l'enceinte du tribunal. Comment la victime témoigne? Dans ce cas-ci, ce n'est pas une victime. Dans le cas de M. Francoeur, c'est un préposé qui l'avait observé. Mais la victime n'a pas témoigné, j'imagine, parce qu'elle n'était pas capable. Elle n'était pas en santé suffisamment pour le faire. Mais il reste que même un contre un, tu peux être... tu sais, même une poursuite civile, tu t'en vas au civil, quelqu'un te doit de l'argent, tu y vas, tu peux être cru juste à ce que tu dis, parce que tu es plus crédible, tu es plus spontané, tu es plus à l'aise. t'es pas mal pris, t'as pas l'air d'un gars qui organise son témoignage, t'as pas l'air d'un parano. Puis le juge va décider qui a raison parce qu'on peut pas avoir toute raison en même temps. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, comme dans toutes les causes.
Et Christian qui vous répond par texto 88-971-1021, effectivement, Maître Bellemare, si vous n'êtes pas cru, vous êtes cuit.
Si vous n'êtes pas... pas pire.
Et on a un autre auditeur qui mentionne bon, salut Yann, simplement pour revenir sur la date des pneus que vous avez abordée au début de l'émission. Un de mes amis me mentionnait que la date a été laissée le 15 mars pour les motos. Ça serait pour les motos. Parce que si on retarde au 1er mai, comme disait Maître Bellemare, ça viendrait à interdire les motos jusqu'au 1er mai. Est-ce que ce serait possible, selon lui, que ça soit cette raison-là pour laquelle on garde ça le 15 mars? Mais honnêtement,
une moto, c'est dangereux, mais là, tu vas être assez intelligent pour rester dans ton garage.
Dans mon
cas,
moi...
S'il y a une tempête en moto.
Dans mon cas, moi, on va rester dans mon garage. Mais vendredi, il y avait une moto derrière moi, puis c'était un homme d'environ 50 ans. Je veux dire, quand même de l'expérience. Là.
Okay.
50 ans, il avait sa moto, puis il était sur la route, mais... Il y a encore des plaques de glace, il y a encore de la neige, il y a encore du sable, il y a encore de la roche. Puis les coins de rue n'ont pas été nettoyés. Quand on prend nos motos à ce temps-ci de l'année, on prend un risque.
On prend un risque. Mais les bottes, quand est-ce que tu ranges tes bottes? Pour dire que complètement, tu mets tes bottes dans le fond du troisième garde-robe là, pour... Moi, mes bottes, là, j'y serre d'habitude, je dirais pas mal fin avril, parce qu'avant ça, je les laisse de côté. Je les mets pas tous les jours comme aujourd'hui. Je suis sorti en souliers. Mais en fin de semaine, hier, je suis sorti en bottes.
OK. Mais moi, quand ça fait une semaine...
Pourtant, hier, tu te promènes en bottes, mais t'as pas besoin de tes pneus d'hiver. C'est quoi la logique, là?
C'est ça. Ben moi, si j'attends que l'hiver finisse, bien entendu. Mais quand ça fait une semaine que j'ai pas pris mes bottes, je les sers pour le restant.
Pour le restant de l'année?
De la saison. De la saison, c'est ça. Puis c'est la même affaire pour mon linge. Mon linge, c'est un an. Si j'ai pas mis de linge pendant un an, je m'en vais le donner.
Ah ben là, le monde va courir, ça va avoir des appels à plein.
Mais je suis
avoir une bobette de Yann Marceau, c'est quelque chose.
Je ne suis pas sapé comme un prince comme vous. Là. Mon linge, c'est pas du linge comme le vôtre.
Chance qu'on nous voit pas.
Non, mais je vais porter ça au comptoir Emmaüs. Mais ça dans des sacs, je vais porter ça au comptoir Emmaüs. Ils lavent ça, puis ils remettent ça en circulation.
Ah, absolument.
Ou vous avez aussi la Saint-Vincent de Paul.
Oh, il y a des chutes un peu partout. Là.
Je sais pas si ça existe encore,
des contenants,
c'est-tu la Saint-Vincent de Paul? Pense à l'armée du salut. Je dis à Saint-Vincent-de-Paul, là. Mais je vais porter ça à l'armée du salut pour le comptoir Emmaüs qui était à côté de chez nous dans le temps. Puis je mets ça dans des sacs, puis merci, bonsoir, ça sert au monde. Mais du monde qui accumule du linge à n'en plus finir, je comprends pas.
Ouais, ben moi non plus, mais il y en a.
Mais faut.
J'en ai déjà eu dans ma maison.
Mais c'est ça. Vous êtes sapé comme un prince, donc vous gardez ça. pendant des années.
Sais-tu qu'avec la COVID, ça a coûté moins cher de linge? Des merceries, ils en ont souffert parce que les gens s'habillaient moins.
Ouais.
Tu sais, avec des zooms, puis tout ça, t'es pas obligé d'être habillé de la même manière.
Non, c'est ça.
Pantalon pressé, parce que tu sors pas, tu restes au bureau.
Mais je vous imagine devant votre ordinateur à la maison chez vous avec juste la cravate puis la chemise, mais le bas.
Ça m'est déjà arrivé, mais il faut que tu fasses attention parce que tu es obligé de te lever pendant le Zoom. Là. Tu te souviens, le gars, un Zoom célèbre là, qui avait fait le tour de la Terre là, avec le gars avec son chat qui il avait une face de chat plutôt que la face avec le juge. Non, mais il faut que tu fasses attention, c'est sûr. Mais tu planifies. Si t'es le bas libéré, ben là. Ouais.
Mais c'était arrivé pendant la COVID. Ben oui, il y avait des Zooms, puis c'était quelqu'un qui donnait son avis de professionnel. Je ne sais pas si c'était à Radio-Canada.
Non, c'était pas un procès aux États-Unis. Il y a un gars qui est resté près avec son chat. Là,
il y a eu ça.
La face de chat.
Au Québec, je ne sais pas si c'était à LCN ou à RDI, mais la dame, personne asiatique, qui est dans le monde de la médecine, là, je perds son nom, là, mais est dans son salon en bas, devant son ordinateur, elle parle. Puis le monsieur descend en boxeur avec ses bas.
On le voit en arrière.
Des marches en arrière. Puis lui, ben tout allait bien. Là.
On appelle ça un figurant.
Ça, c'est gênant, maudit.
T'as mal figuré.
Maître Bellemare, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, on vous contacte chez bellemareavocat.ca.
Bellemareavocat.ca, facile à trouver.
C'est un plaisir de faire de la radio.
Bienvenue.
Avec vous.
Eh oui, bonne semaine, tout le monde.
Bonne
Salut,
soirée. Bye-bye. Les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Madame Pinchot avec son sextape à ne pas manquer. Salut. Marceau, le soir.